drum, CKUT. Drum.
CKUT is back for our annual funding drive, and we have quite the spread prepared for you. From March 17th to March 26th, tune in for the most delectable programming in Montreal. Join us in person for dance nights at La Sardinia on March 17th and at Les Systèmes on March 25th. Don't miss these scrumptious celebrations of community radio and sound buffets from your favorite CKUT DJs. We need $45,000 to keep your ears filled with the tastiest music, news, and spoken word programming. Donate now by visiting ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, serving up fresh radio since 1987.
CKUT.ca on the World Wide Web. News, interviews, and music featuring the voices of prisoners, their allies, and supporters. Tune into the Prison Radio Show on the fourth Friday of every month between 11 a.m. and noon, and every second Thursday of the month between 5 and 6 p.m. To get involved in Prison Radio, or if you need to access past programs, email prison@ckut.ca.
Rehabilitation.
I wonder if you know what the word means. Do you? It comes from the Latin root habilis. The definition is to invest again with dignity. You consider that part of your job, Harvey, to give a man back the dignity he once had? Your only interest is in how he behaves. You'll conform to our ideas of how you should behave.
I am not a number. I am a free man.
Number, you weren't a man, you want to be a human. I wasn't Jim Crow, and hell, I was number 586.
Why do you do a warder's job?
It's a good job. Responsible job. Officers like myself trying to...
Scum.
We're only enforcing the law.
The law. When they hang my husband, is that just...
You're listening to the Prison Radio Show. My name is Virginia, and I'm your host for today's show. Today we're going to share audio from an event that happened on March 14th, 2023. It was a book launch for the book 13-12 Raisons d'abolir la police, a compilation of articles and short pieces edited by Gwenola Ricordo and released with Lux Editeur. We have a bunch of audio in French from different speakers at that event. But first, a reminder that it is currently the funding drive at CKUT. The easiest, fastest, and best way to donate is online at ckut.ca/donate. However, you can also mail a check to CKUT. We're at 3647 University Street. Or you can call 514-907-9424 to donate over the phone. Without further ado, here is Étienne Simard introducing the book launch for 13-12 Raisons d'abolir la police.
Pour commencer, je vais vous présenter les panélistes. Donc, à ma droite, pour commencer... Il y a Adore Goldman, qui est travailleuse du sexe et militante au sein du Comité autonome du travail du sexe. Ensuite, il y a Gwenola Ricordo, qui est sociologue féministe à la California State University à Chico. Elle est aussi autrice du livre Pour elle toute, Femmes contre la prison, et Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal. Ensuite, il y a Mélina May, qui est aussi travailleuse du sexe et militante au CATS. Et finalement, il y a Jessica Quijano, qui est militante au sein de la Coalition pour le définancement de la police, donc l'IFON de SPDM. La soirée est organisée évidemment par Lux Éditeur, qui a édité le livre. On va commencer premièrement par une présentation du livre. Gwenola Ricordo va prendre le temps, en fond, de présenter toute sa démarche, puis comment elle en est venue à la préparation de cet ouvrage collectif. Donc, je te laisse la parole, Gwenola.
Bonsoir tout le monde, et donc j'ai 10 minutes
pour essayer de présenter ce livre que je suis très heureuse de publier chez Lux avec mon éditrice Marie-Ève, avec qui c'est la deuxième fois que je travaille. Donc merci à Lux de donner cet espace dans l'édition francophone à la question de l'abolition de la police. Alors, pour dire brièvement l'intention du livre, c'est évidemment de contribuer dans l'espace francophone à donner des outils de réflexion, à accéder à des réflexions autour de la question de l'abolition de la police, et donc pas simplement de faire une critique de la police. Et c'est à ce à quoi je m'attache dans l'introduction, de dire qu'il faut rompre avec le régime ordinaire de la critique de la police. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais d'un point de vue abolitionniste, si je peux parler d'un nous collectif, nous faisons rupture avec cette idée que la police fonctionne mal. Et nous disons au contraire que la police fonctionne particulièrement bien. Elle fonctionne ce pourquoi elle a été créée. Et que donc, d'un point de vue abolitionniste, il faut arrêter de dire qu'on souhaite la réforme de la police, qu'elle serait réformable, qu'elle pourrait être améliorée, parce qu'elle fonctionne déjà parfaitement bien. Et donc, il y a cette idée avec ce livre de proposer des outils d'analyse, mais aussi de contribuer à un bilan critique de ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire dans le sillage du meurtre de George Floyd, les mobilisations Black Lives Matter et la popularisation comme jamais auparavant dans l'espace public de revendications, d'idées abolitionnistes. Et donc c'est pour ça que le livre est paru début 2023, aussi pour laisser ce temps-là, le temps en fait de la possibilité d'un bilan critique. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais c'est bien l'idée de voir de quelle manière en fait les mobilisations se sont articulées, quelles ont été les idées, de quelle manière ça a pu se matérialiser dans les luttes, et puis de fournir aux militants, aux militantes, aux personnes qui essaient de penser de manière critique, de manière radicale la police, ces outils d'analyse, et au-delà même en fait, des outils qui peuvent être proposés aux militants et aux militantes, de montrer de quelle manière on peut penser, on peut analyser la police d'un point de vue abolitionniste. Pour dire les choses autrement, comment penser en abolitionniste la police. Donc voilà l'intention du livre, et de façon assez logique, il s'agissait pour moi de non pas d'écrire un livre, mais de proposer en fait une diversité de voix, une diversité de points de vue. Aussi parce que l'abolitionnisme, l'idée d'abolir la police comme l'idée d'abolir la prison, est souvent critiquée sous l'angle de la naïveté. On nous dit souvent, vous les abolitionnistes, vous êtes naïfs, vous êtes utopistes. Mais en fait, ce genre de critique, c'est des critiques qui sont exprimées par des gens qui ne connaissent pas la richesse en fait, de l'histoire des idées, de l'histoire des mouvements abolitionnistes, qui ignorent la manière dont l'abolitionnisme est traversé par une diversité de courants, par des débats, notamment des débats stratégiques, et donc d'avoir une diversité de voix, une diversité aussi de points de vue au sein de l'abolitionnisme, c'était important pour moi pour redonner en fait cette complexité, et de partir en fait de la complexité des débats, voire même des difficultés auxquelles on se confronte lorsqu'on a ce projet d'abolir la police. Et donc c'est pour ça que le livre regroupe une quinzaine de contributions. Alors des contributions qui viennent à la fois d'auteurs, d'autrices, d'intellectuels, de militants, de militantes, de collectifs. Donc d'avoir aussi une diversité dans le langage, dans les façons de penser en fait la question de l'abolition de la police. Et donc d'être du côté en fait de cette diversité et des débats. Alors, ce livre se veut donc une ouverture, une fenêtre ouverte sur comment penser en abolitionniste et comment lutter en abolitionniste contre la police. Et puis j'en offre une introduction et une conclusion où là je présente un point de vue plus personnel, et j'aurai l'occasion de vous dire aussi moi ce que je peux penser et de comment je peux me situer par rapport à certains débats abolitionnistes. L'autre chose assez générale que je voulais vous dire sur le livre et pour expliciter ce qu'est un point de vue abolitionniste, voulais, pour faire entendre cette perspective, vous lire le tout début de l'ouvrage, et donc l'introduction que j'ai rédigée. Ça commence ainsi. « Je déteste la police. Pourtant, mes griefs personnels contre les policiers sont très mesurés. S'ils ne m'ont jamais été d'aucune utilité, ceux à qui j'ai eu affaire se sont généralement montrés plus feignants que zélés, et s'ils étaient pour la plupart de vraies têtes de cons, ils en étaient souvent pas moins attachés à la République. Mais au regard de l'ampleur des nuisances que cause la police, mes désagréments ont été somme toute assez modestes, pour des raisons tenant à la fois aux circonstances et aux privilèges que me confère notamment mon sexe, la couleur de ma peau et ma classe sociale. Qu'on ait ou non des griefs personnels à son égard, détester la police est une position politique. » Et ça, c'est le point de départ de cette réflexion abolitionniste, de dire qu'il s'agit pour nous, en fait, de politiser ce rapport à l'institution policière, de dire clairement que la police est notre ennemi, hein, et donc là, je reprends l'expression de Christian Williams, un abolitionniste états-unien, qui parle de nos ennemis en bleu, hein, et donc c'est dire clairement d'assumer la conflictualité, d'assumer qu'il y a un antagonisme, et que donc cet antagonisme, cette conflictualité, ça ne peut pas se résoudre en fait dans des réformes. Donc c'est de manière très succincte ce en quoi le livre propose une analyse de la police et une perspective abolitionniste. Et le livre se termine par une conclusion que j'ai écrite, dans laquelle je dis... Je vais très rapidement, mais c'est le format. Hein. D'abord, il n'y a pas d'abolitionnisme, de mon point de vue, sans projet révolutionnaire. Et c'est, à mon sens, extrêmement important parce qu'il y a des formes de mainstreamisation, de récupération de l'idée d'abolir la police comme d'abolir la prison. Et donc, c'est important pour nous, abolitionnistes, de réclamer l'abolitionnisme comme étant un projet révolutionnaire et pas se laisser voler notre projet d'abolir la police, d'abolir la prison, en gros par les libéraux, hein, pour dire les choses rapidement. Deuxième idée, à mon sens, importante de la conclusion, c'est de dire qu'il faut défliquer les luttes progressistes, donc défliquer les luttes progressistes dans le sens où c'est un bilan que je fais, alors à la fois de ma situation qui est aux États-Unis, connaissant bien, puisque c'est le pays dont je viens, la France, mais je pense que sans faire offense à quiconque ici, je pense que c'est aussi valable pour le Canada, beaucoup de luttes progressistes s'appuient sur un recours croissant au système pénal, alors que ce soit la police, la prison, mais toujours avec cette idée, hein, qu'il faudrait criminaliser alors ceux qui sont pas féministes, ceux qui sont racistes, etc. Et que ceci entretient en fait l'illusion qu'il pourrait y avoir une police, qu'il pourrait y avoir une justice au service de nos luttes progressistes. Mais avoir des luttes progressistes, c'est forcément trouver la police sur son chemin. Hein. Il faut pas croire que la police pourrait être de notre côté. C'est en tout cas ce sur quoi j'essaie d'appuyer dans ma conclusion.
Donc, je vais poser une première question, en fait, à Jessica Cujano, par rapport au collectif Defund le SPVM,
oui.
À savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion, comme débat à l'intérieur de la coalition pour préciser la revendication du définancement.
Quand on a commencé la coalition en 2020, on a demandé à la Ville de Montréal de définancer la police par 50%. De réinvestir dans différentes communautés et je pense que, tu sais, on peut avoir différents points de vue comment on peut abolir la police et les prisons. Pour moi, je parlais defund, abolir les prisons, c'est vraiment changer la conscience de la société. C'est pas juste définancer ou abolir les prisons et la police, c'est vraiment de regarder à toutes nos institutions qui sont problématiques et qu'on est souvent dans des façons qui sont punitive, ways, comment on est avec, quand ça commence à l'enfance. Premièrement, deuxièmement, comme travaillant pendant 20 ans comme travailleuse de rue sur la rue, personnellement, moi, je ne pourrais pas j'ai participé dans des réformes avec la police parce que je savais que ça allait probablement des fois sauver la vie de quelqu'un ou de ne pas être harcelé sur la rue ou avant la brutalité policière. Juste pour vous donner un contexte, le dernier travail que j'ai fait avec le foyer des femmes autochtones, j'ai travaillé dans le square Cabot, qui est à Outer, avec les femmes inuites, qui sont majoritairement, qui sont très profilées par la police. Il y avait une étude qui est venue qu'ils étaient les plus profilés que des personnes non autochtones ici à Montréal. Juste pour vous dire que la communauté autochtone représente 10% de la population itinérante et sont brutalisées à tous les jours. Alors pour moi, c'est quand on parle d'abolition, oui, c'est personnellement comme mes valeurs. Par contre, si ça veut dire que moi, je vais parler avec un policier pour que la personne que je travaille avec ne va pas être brutalisée cette journée-là, je pense que c'est important. C'est un peu comme les food banks. C'est comme c'est pas la source à la pauvreté, mais quand t'as faim, on a besoin de ça. Quand on a commencé à parler de ça, c'était très important de vraiment organiser toutes les différentes communautés, les communautés noires, les communautés autochtones, les personnes qui sont dans la rue, les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe, la communauté trans, les personnes qui consomment les drogues, parce qu'ils sont les plus ciblés par la police et qu'ils ont une voix à comment ils voient le définancement de la police. Alors, pour moi, je crois que c'est ce que je vois comme dans notre mouvement, et c'est qu'on n'est pas capable de communiquer qu'est-ce que ça veut dire l'abolition, parce que souvent, c'est peut-être comme par exemple, quand on parle de police à Ganawagé, on est sur des terres non cédées de Ganigahaga, ici à Montréal et Jinjage, eux, ils ont une police qui s'appelle des Peacekeepers. Eux, ils n'ont jamais tué personne. Ils n'ont jamais eu de brutalité par la policière. C'est parce qu'eux, ils viennent souvent de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique avec la façon qu'ils travaillent avec. Par contre, quand on communique abolir la police, ça ne résonne pas avec eux. Alors, il faut vraiment voir comment le langage qu'on utilise quand on parle d'abolir la police et on parle d'abolir des institutions où on est très socialisé à le faire tout le temps. Regarde nos écoles, regarde nos hôpitaux, regarde la psychiatrie. On est très comme, si quelqu'un fait quelque chose de mal, on les punit. C'est vraiment la façon qu'on est dans notre société. Alors, je dis ça parce que j'ai de la difficulté à penser qu'on ne devrait pas faire les étapes à tous les jours pour que la brutalité policière ne soit pas aussi pire. Et de ne pas engager avec la police et avoir des discussions importantes avec eux. Quand on dit abolir la police, pour moi, je veux dire, quand j'ai des difficultés avec tout le monde haït la police, parce que c'est pas la police, les policiers individuellement. Oui, il y en a qui sont, j'en ai vu beaucoup, j'ai fait des interventions pendant 20 ans avec des policiers, alors j'en ai vu de toutes sortes. C'est l'institution. Parce qu'il faut vraiment aussi, il y a des communautés racisées où des personnes deviennent des policiers parce qu'ils veulent une bonne job. Pense pas à toutes les théories et tout ça. Ils veulent une pension. Ça existe dans beaucoup de communautés à travers le Canada. Et je pense qu'il faut vraiment centrer, avant que tout ça arrive à abolir des prisons où la majorité des personnes sont des personnes noires et autochtones dans nos prisons, pour vraiment regarder comment on va redonner Give Land Back et décoloniser la façon qu'on est présentement.
You're listening to the Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM, 91.7 on cable, and online at www.ckut.ca. We are in the middle of sharing audio from a book launch that happened in Montreal last week. You are getting the full bilingual Montreal radio show experience. 13-12 Raisons d'abolir la police was launched on March 14th in Montreal with an in-person event that we have recorded to share here. In the next section of the event, Adore Goldman from the Comité Autonome de Travailleurs du Sexe talks about the article her collective wrote for the book, and Gwenola Ricordo talks about the annual Day Against Police Brutality, which was recognized in Montreal on March 15th.
En fait, justement, pour faire suite là, à cette question-là, je sais qu'on disait souvent, en tout cas, là, quand est venu le mot d'ordre là, pour la revendication du définancement, dans les dernières années, il était souvent question de prendre cet argent-là, prendre ce budget-là, puis d'embaucher des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux au lieu de la police pour faire le travail puis intervenir, c'est de ça qu'on avait besoin, etc. dans le texte que vous avez écrit, les militants du CAPS, en fait, vous êtes très critique de cette perspective-là. J'aimerais ça que vous approfondissiez ce point-là. Je pose la question à Dr. Goldman.
Mais dans le fond, nous, les travailleuses du sexe, quand on regarde par rapport au modèle actuel, la criminalisation, comment ça nous affecte, c'est qu'on n'est pas tellement vu comme les criminels dans le modèle, mais plutôt comme les victimes. Donc, sous la loi actuelle, c'est les clients et les tierces parties qui sont criminalisées. Donc, tout ce qui est les patrons, les secrétaires, toutes les personnes qui bénéficient de l'argent de notre travail. Puis, dans le fond, le modèle conçoit vraiment qu'on est des victimes. Donc, sous ce paradigme-là, mais dans le fond, le travail social va vraiment jouer un rôle de contrôle social pour essayer de nous encourager à sortir de l'industrie, parce que c'est toujours ça le but. Puis, dans le fond, ça va mener à une grande collaboration avec la police, par exemple, pour encourager des parcours de sortie de l'industrie du sexe. Puis, historiquement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le développement du travail social, puis des forces policières, va quand même de pair, puis que les travailleurs sociaux ont quand même toujours eu un rôle de contrôle social par rapport aux travailleurs du sexe. Dans le fond, dans les années 1800, le travail social s'est développé beaucoup pour répondre aux problèmes sociaux créés par l'urbanisation. Puis, c'est beaucoup des femmes de la classe moyenne qui se sont portées garantes de l'application de nouvelles normes familiales, dans le fond, des nouvelles normes de genre pour appliquer aux familles prolétaires puis aux familles immigrantes. Donc, vous pensez entre autres, je sais pas si certains d'entre vous connaissent Jane Addams, qui appartenait au mouvement hygiéniste. On la considère comme la profondatrice du travail social. Puis dans le fond, le mouvement hygiéniste considérait que dans le fond, la saleté n'était pas seulement physique, mais aussi morale. Donc, par exemple, c'était important d'avoir une belle maison, de nettoyer sa maison, mais c'était aussi important d'avoir des normes, des mœurs qui étaient hygiéniques. Donc, il y a une historienne, Marianne Coutenon, qui a travaillé sur la prostitution montréalaise entre les années 1800 et 1850, qui montre que déjà à cette époque, il y avait une frange réformiste qui préconisait la réhabilitation plutôt que la punition. Mais l'idée de la réhabilitation, c'était justement de mettre les travailleurs du sexe dans des maisons de correction, puis de les faire effectuer des travaux domestiques pour essayer de les sortir du travail du sexe. Donc aujourd'hui, ben, on voit qu'il y a encore une instrumentalisation qui est faite des traumatismes des travailleurs du sexe, puis de tout ce qui est nos affects, pour expliquer nos choix de faire du travail du sexe. Puis on va souvent taire tout ce qui est nos conditions de vie, nos conditions matérielles, dans nos choix. Puis ça va faire en sorte aussi qu'on va beaucoup plus écouter les personnes, justement, qui vont en être sorties, parce que c'est comme si nos traumatismes nous empêchaient de pouvoir parler rationnellement. Voilà. Puis dans ce sens-là, c'est comme si les travailleurs sociaux étaient celles qui devaient nous faire entendre raison. Dans le fond, dans le texte, on donne deux exemples que je vais vous partager. Donc, le premier qu'on nomme souvent, c'est que les mères qui sont TDS, entre autres, continuent d'être pénalisées par la criminalisation, entre autres, à travers la protection de la jeunesse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on entend très, très, très souvent, des mères qui se font signaler parce qu'elles font du travail du sexe. Au CATS, on a fait un autre texte, on a mené une enquête militante. On a interviewé trois mères TDS par rapport à leur relation avec l'État, particulièrement les services sociaux. Qu'est-ce qu'on a qui est ressorti de ces entrevues-là? C'est que pour les trois, il y avait, dans le fond, la peur de la menace d'être dénoncée à la DPJ. Ça faisait que les individus dans leur vie pouvaient les manipuler par rapport à cette menace-là, que ce soit des intervenants sociaux, des proprios ou des ex-conjoints. Par exemple, il y a une femme qui disait que son proprio lui faisait, quand il a découvert son métier, elle lui faisait du harcèlement pour qu'elle quitte le logement. puis lui faisait des menaces d'appeler la DPJ si jamais elle déménageait pas. Puis, ben, ça a marché parce qu'elle disait que c'était pas une chance qu'elle pouvait prendre. Donc, elle a dû déménager. Un autre exemple, c'est que souvent, quand les TDS vont, par exemple, porter plainte, ben, des fois, elles vont se retrouver avec encore plus de problèmes, donc ce qu'on appelle parfois la victimisation secondaire. Je vais vous donner un exemple, c'est Dominique Martel, qui est une ex-travailleuse du sexe et qui a survécu à une tentative de meurtre dans le cadre de son travail. Elle a déposé une demande d'indemnisation des victimes d'actes criminels, l'IVAC. Dans le fond, ça a pris 10 ans avant juste que l'IVAC reconnaisse que qu'est-ce qu'elle a vécu, c'était un acte criminel qui méritait d'être indemnisé. Donc, elle s'est rendue en Cour supérieure du Québec, c'était déjà ça. Mais pire, après que ça avait été reconnu, ben, l'IVAC, on dit, ils n'ont pas reconnu ses revenus de travail du sexe comme des revenus de travail. Donc, elle a été qualifiée comme si elle était sans emploi. Donc, c'est-à-dire le salaire minimum d'il y a 10 ans, donc 9 $ de l'heure, alors qu'elle avait des revenus, puis que l'IVAC considère les revenus de travail non déclarés. Donc, on voit que c'est vraiment pas l'idée que c'était des revenus non déclarés, mais bien que ce n'est pas des revenus de travail que l'IVAC ne veut pas reconnaître. Donc, on voit qu'avec ces exemples-là, c'est pas nécessairement en ajoutant que les travailleuses... Ben, c'est ça. Que quand, tant qu'on va rester dans une position qu'on est des victimes bénéficiaires, on n'est pas dans une position qu'on peut revendiquer des droits. Puis tant qu'on ne va pas se faire reconnaître des travailleurs, comme travailleuses, mais on ne va pas être dans une position de pouvoir demander les ressources qu'on veut puis comment on les veut. Donc nous, on pense qu'en adoptant cette position-là comme travailleuse, c'est là qu'on est vraiment capable de s'organiser puis ensuite de pouvoir construire un rapport politique pour pouvoir demander vraiment les transformations puis les ressources que l'on veut.
That was Adore Goldman and Gwen Ricardo speaking at a book launch for the book 13-12 Raisons d'abolir la police, which was published by Lux Editeur. We'll be sharing more audio from that talk after this short break. The Prison Radio Show is a twice-monthly news show on CKUT. The show seeks to confront the invisibility of prisons and prisoner struggles by focusing on the roots of incarceration, policing, and criminalization, and by challenging ideas about what prisons are and who ends up inside. We have been running a phone line for prisoners and their outside supporters for the last couple years, and the phone number has recently changed. You can now reach us at 438-858-6116. We would like to thank Fed Phone Line for providing us with this number for free. They wanted us to tell you that they help save money to inmates, family, and friends by reducing the cost of collect calls. For more information about their company, you can go to Fed Phone Line. So again, our new number is 438-858-6116. You can call us collect from Bordeaux Prison and Riviere de Prairie Prison at that number. As always, we're an all-volunteer collective and don't always manage to answer the phone. If you can leave a message, please do. If you're calling collect and we don't pick up, try again next time you can get to the phone. And again, our phone number is 438-858-6116, and you can call us collect from Riviere de Prairie Prison or Bordeaux Prison. You're listening to The Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM, 91.7 on cable, and online at www.ckut.ca. It is funding drive season here at CKUT, and we're encouraging all of our listeners who can spare some change to pitch in and help keep us on the air. If you donate on our behalf, let the station know. We appreciate all of you out there contributing to keeping news relevant to prisoners and their allies on air twice a month here at CKUT. The easiest, fastest, and best way to donate is online at ckut.ca/donate. However, you can also mail a check to CKUT, they're at 3647 University Street, or call 514-907-9424 to donate over the phone. Without further ado, we will get to the end parts of the book launch for 13-12 Raisons d'abolir la police with Gwenola Ricordo, Étienne Simard, Jessica Quijano, and members of CATS, the Comité Autonome des Travailleurs du Sexe.
Pour poursuivre la discussion, en fait, je voulais aborder la question de la brutalité policière. Demain, c'est le 15 mars, c'est la journée internationale contre la brutalité, les brutalités policières. Le mouvement au Québec, à Montréal en particulier, contre la police, les mobilisations se sont beaucoup organisées autour de la question des brutalités policières. Ça a pris beaucoup de place, en fait. Ça a été un peu initiateur depuis 27 ans maintenant. Dans le livre, Gwenola Ricordo, vous saluez cette mobilisation, mais par contre, vous soulignez que la réduction des critiques de la police à sa violence ou à certaines violences tend à éclipser l'ampleur des nuisances causées par son existence. Est-ce que tu pourrais approfondir sur cette question?
Oui, alors, évidemment que là, il ne s'agit pas d'une critique de choix tactique, et j'emploie bien cette expression-là de choix tactique, fait par des mouvements politiques, hein, qu'ils soient d'ailleurs au Canada ou dans d'autres espaces géographiques. Hein, les décisions tactiques appartiennent au mouvement selon la situation dans laquelle ils sont, selon les situations. Par contre, là où, avec d'autres, je fais peut-être un pas de côté par rapport à une évidence qui serait de réduire les luttes contre la police aux luttes contre la brutalité policière. Alors, déjà, il y a une question d'expression, et alors là, je parle du point de vue qui est, enfin, en termes linguistiques, je parle avec mon français de France, alors voilà, où moi je ne parle pas de brutalité policière, je ne parle même pas de violence policière, je parle généralement en fait de crimes d'État ou de violence d'État pour sortir en fait de l'idée que en fait, ça pourrait, la responsabilité pourrait aller se chercher uniquement auprès de policiers. Puis l'avantage aussi de parler de crimes d'État ou de violences d'État, c'est aussi de souligner le continuum qu'il y a entre les crimes policiers et les crimes pénitentiaires. Hein, et de dire que, en fait, quand les gens meurent en prison ou lorsqu'ils meurent par la police, hein, c'est un même cas. Et d'un point de vue abolitionniste, hein, je pense que c'est important de parler de toutes ces formes de victimation et des différentes manières dont l'État tue. Alors, une fois que l'on a dit ça, et encore une fois, hein, les mots sont faits juste pour s'entendre, mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de parler en termes de brutalité policière. Ce pas de côté que je propose, c'est pas évidemment de dénigrer la gravité, le caractère dramatique de ces homicides policiers, mais c'est de dire qu'il ne faudrait pas réduire la nuisance qu'est la police à ses seuls actes.
You're listening to the Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM, 91.7 on cable, and online at www.ckut.ca. Here is the final section of the book launch for 13 12 raisons d'abolir la police with Gwenola Ricordo.
Pour la suite de la discussion, en fait, j'aimerais aborder là, deux questions. En fait, on parle souvent de la police au service d'un ordre capitaliste qui est colonial, etc. Dans votre texte, là, du Comité autonome du travail du sexe, vous abordez, en tout cas, vous essayez d'analyser puis de comprendre, de saisir un certain ordre social, structurel dans lequel s'applique, puis, disons, l'ordre que défend la police. Vous parlez d'un véritable ordre sexuel capitaliste, en fait, que la police défend et protège. Donc, je pose la question à Mélina Louis. Pourrais-tu approfondir sur le sujet?
Nous, dans le fond, on a comme placé notre lutte sur le continuum des luttes pour la valorisation, pour la salarisation du travail reproductif, pour la juste reconnaissance de ce travail-là, qui est le travail reproductif. Et peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme-là, quand on parle de travail reproductif, on parle de prendre soin, donc travail productif, travail reproductif, donc de prendre soin des gens, d'éduquer les gens, donc tout le travail qui était historiquement fait par les femmes au foyer, donc prendre soin des aînés, prendre soin des besoins émotionnels, mais aussi sexuels de la personne salariée, donc l'homme historiquement. Aujourd'hui, c'est sûr que une grande part de ce travail-là a été marchandisé, était dans l'employeur et ben, les choses, donc à travers nos hôpitaux, à travers l'hôpital, les écoles. Donc nous, on a un peu placé notre lutte donc, pour la connaissance du travail du sexe sur la lutte Wages for Housework. Donc on se place sur ce continuum-là, dans cette lutte-là qui a eu lieu dans les années 70, donc qui a remis en cause pratiquement l'ordre capitaliste en disant ben, il y a une grosse part du travail qui n'est pas visibilisée dans le capitalisme, c'est le travail des femmes à la maison. Donc, ce travail-là qui était fait de façon gratuite et dont l'État s'appropriait. Puis, c'est un travail en fait très nécessaire, qui permet en fait à la force de travail d'être présent le jour suivant dans les usines, sur leur milieu de travail. Puis, non seulement ce travail n'est pas rémunéré, mais aussi il doit être fait par plaisir, donc par vocation, on a aussi beaucoup parlé de ça aujourd'hui, donc le travail des infirmières, le travail des éducatrices, le travail des préposés aux bénéficiaires, c'est nos héros, c'est des personnes qui font par amour. Ben, nous, on place le travail du sexe dans cette grande de famille, donc le travail du care, le travail de reproduction, puis on pense que ben, s'il il est criminalisé, c'est que l'État, en fait, il veut l'individualiser, il veut se l'approprier. Puis, il veut aussi nous réorienter vers des domaines qui sont légaux ou, en fait, beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, à quoi sert, en fait, la répression dans un système capitaliste du travail du sexe? Enfin, sur nous, d'abord, appauvrir les femmes, les personnes trans, les personnes noires, les personnes autochtones, handicapées, neurodivergentes, tout ça qui ont la difficulté à trouver pour les plus marginales un emploi qui est stable, qui va financer leurs besoins. Donc, c'est pour plusieurs moyens de subsistance, c'est un travail. Donc, c'est avant tout pour faire l'argent. Donc, on voit la répression d'abord comme un moyen d'approuver ces personnes-là. Ensuite, c'est pas seulement une répression qui est sexuelle, mais on voit aussi que c'est une répression qui sert aux intérêts économiques de l'État. Donc, l'État veut que cette force de travail-là, en fait, aille vers redirigé vers d'autres domaines. Donc, on peut penser travail social, infirmière. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de travail sexe qui sont déjà dans ces domaines-là, donc de l'éducation et tout. Donc, parce que, en fait, c'est aussi des milieux qui sont très précaires où les salaires ne sont pas nécessairement élevés. On peut penser aussi au travail domestique. Il y a plusieurs qui vont choisir de faire travail sexe pour pallier à ce manque de ressources financières, mais aussi à l'épuisement. Parce que pour plusieurs, ça peut être un travail qui est vraiment moins exploitant que d'autres travails typiquement féminins. J'aimerais parler d'un exemple qui a eu lieu pendant la pandémie en 2021, en pleine pandémie. Au Texas, il y a un gouverneur qui a signé une loi faisant passer l'âge légal pour danser dans les bars de 18 ans à 20 ans. De 18 ans à 21 ans. Donc, toutes les femmes qui se trouvaient dans cet âge se sont retrouvées du jour au lendemain sans emploi. Puis, en fait, il y a eu une militante, Marla Cruz, qui est stripper, qui est militante pour les droits des PS, c'est pas le sexe, qui a dit ben, ça, en fait, moi, comment je pensais, c'est que l'État, il veut, en fait, réorienter ces femmes-là vers des jobs de service, parce qu'il y avait une grande pénurie à ce moment-là. Pendant la pandémie, donc dans le service, dans le caissière, à l'épicerie et tout, puis on sait que c'est des emplois qui sont tout autant, qui peuvent être plus précaires, qui peuvent autant nous exposer au virus, puis pour lesquels on préfère ne pas aller, on préfère en fait rester sur nos milieux de travail. Donc c'est quoi en fait les options que de sortie que nous offre l'État? Ben, c'est ça, souvent, ça va être des jobs qui sont plus précaires, qui vont avoir des horaires de travail qui ne conviennent pas à certaines mères, par exemple les mères monoparentales qui font le travail sexe. Puis, quand on pense que l'État, au lieu de financer et d'offrir des conditions de travail qui ont du sens dans les services de santé, d'éducation, de care, qui va utiliser cet argent-là pour financer massivement des programmes anti-trafic humain, des programmes de police pour surveiller, pour former les services d'hôtellerie, les taxis, pour qu'ils puissent reconnaître les supposés victimes. Et quand on pense que tout cet argent-là pourrait en fait servir à à être mis dans des ressources concrètes pour améliorer les conditions de vie des personnes qui décident de faire un travail sexe ou qui simplement dans le logement ou autre chose, donc, qui pourraient améliorer les conditions de vie largement de la société. Ben, c'est une hypocrisie. Puis aussi, ben, il faut rappeler que la criminalisation, ça aussi un autre racisme. Donc, quand on pense aux frontières, ça fonctionne très bien pour cibler les travailleuses migrantes. Donc, la criminalisation concrètement au Canada, ce qui a pour conséquence concrète sur les travailleuses sexes, c'est surtout les travailleuses les plus vulnérables, donc les travailleuses de rue, mais aussi les travailleuses qui travaillent dans des milieux où, comme les salons de massage, où il y a plusieurs travailleuses qui sont racisées, asiatiques, migrantes, sans statut. En fait, la criminalisation va très bien servir à les cibler puis à les emprisonner parfois et à les déporter. Puis à ce sujet, un autre exemple. Plus récent et plus proche de nous, en mai 2022, la ville de Newmarket en Ontario a adopté une nouvelle classification des licences pour les salons de massage. Puis en espérant, je cite le maire de la ville, vouloir chasser l'industrie du sexe hors de la ville. Donc Butterfly, qui est un organisme à Toronto pour la défense des droits des migrants et asiatiques, a vu ça en fait comme une façon de perpétuer le racisme systémique. Parce que en fait, cette nouvelle classification rendait plus difficile l'accès à cette licence-là. Puis en fait, ça venait cibler spécifiquement les femmes asiatiques, non anglophones, à faible revenu, de travailler dans ces établissements-là selon Butterfly. Donc en fait, la criminalisation pour nous, c'est aussi un outil de surveillance, de contrôle des corps. On n'a pas envie d'avoir plus de police dans nos milieux de travail. On veut pouvoir nous donner nous-mêmes les moyens de rendre nos milieux plus sécuritaires et inclusifs. Puis ça passe d'abord par la décriminalisation. Bien, la décriminalisation, on peut penser que c'est une demande qui est quand même assez réformée dans le sens où ça demande un changement législatif, de passer les lois qui entourent le travail du sexe à la sphère criminelle, donc demande transférer à la sphère du travail. Mais on sait que la décriminalisation, ça a quand même des limites. C'est le cas en Nouvelle-Zélande. On l'a observé dans le fond que malgré la décriminalisation, il y a plusieurs travailleurs du sexe qui peuvent continuer de travailler parce qu'il y a des lois qui criminalisent les personnes qui divulguent pas leur statut sérologique. Il y a des lois qui criminalisent les personnes qui consomment des drogues. Il y a des lois qui criminalisent les travailleurs migrants sans statut. Donc, c'est pas tout le monde qui peut travailler dans l'industrie, malgré la décriminalisation. Donc, c'est pas la panacée. Puis, on veut. C'est pour ça aussi qu'on souhaite s'allier avec d'autres luttes, parce que c'est pas là que ça va être la lutte pour la libération de tout le monde. Mais aussi, je pense que, en fait, plus théoriquement et plus stratégiquement, de penser le sexe ou encore le genre comme un travail ouvre des perspectives de lutte qui sont quand même assez ambitieuses. Je pense que le travail du sexe, c'est juste une petite partie de tout travail féminin qui est fait par les personnes dans les hôpitaux, dans les cliniques, les écoles, les centres culturels, les organismes communautaires, les garderies, c'est tout des milieux où on voit en fait que ce sont des milieux en fait où c'est largement dévalorisé le travail des femmes et des personnes queer, trans, non binaires, qui sont investies dans ce milieu-là, puis qui elles-mêmes font face à des attentes de genre, de performance, de genre et sexuelle. Donc, c'est nous, on souhaite en fait s'allier. Pour nous aussi, la décriminalisation, c'est comme un point pour s'allier avec ces personnes-là. Puis je pense que ça le fait déjà aussi. Puis j'aimerais juste conclure en disant que, comme les militants du salaire du travail ménager l'avaient établi, réclamer un salaire qui a un statut au travail ménager comme au travail du sexe, ça ne s'agit pas seulement de dire que celui-ci soit considéré comme tous les autres travails, mais que quand nous identifions tel quel, comme un travail, le sexe est un travail, que ce soit dans la chambre à coucher, que ce soit pour rémunérer, les femmes seront à même de pouvoir le refuser, et c'est dans le cadre d'une lutte plus générale de refus du travail. écrit de Grève des femmes.
La dernière question qui va venir de ma part, en fait, je voulais aborder la question incontournable dans les colonies américaines. Il y a un texte, un excellent texte, en fait, du groupe Freelance Free Peoples, qui est un groupe organisé dans les prairies. On peut lire dans le texte que les forces de police de l'État colonial ont toujours eu pour principale fonction d'étendre le contrôle du Canada sur les terres, les ressources et les corps autochtones, et d'en assurer l'accès aux colons. Les tactiques de maintien de l'ordre déployées pour faire valoir et protéger les intérêts des Blancs font de la violence ouverte à l'encontre des personnes et des communautés autochtones au maintien de conditions sociales plus générales qui menacent et dévalorisent leur existence et leurs droits. Jessica Cugiano, vous avez été longtemps intervenante, travailleuse de rue, vous avez travaillé avec les femmes autochtones. Je pense que dans le très concret, vous avez vu et connu cette, cette violence.
Je pense que aussi, il faut vraiment la crise des femmes autochtones disparues et assassinées, des femmes two-spirit et trans, est vraiment reliée à la criminalisation. Les femmes qui sont en prison, qui sortent de prison, sont souvent des femmes qui ont des disparitions, qui ont des assassinats, qui sont dans l'industrie du sexe. Alors, c'est tellement relié à un génocide et que c'est intentionnel. C'est ça, c'est souvent, on n'en parle pas assez, que c'est présentement, on a des prisons où il y a des 40%, c'est des femmes autochtones dans des prisons, où ils représentent moins de 3% de la population au Canada. Alors, c'est quand même assez outrageous, si on y pense. Il faut vraiment, comme je pense ici au Québec, on est très en retard par rapport à être conscient qu'il y a eu beaucoup de colonisation et des droits humains des personnes autochtones étaient faits par des colonisateurs francophones, des Français, et ce déni continue ce génocide. À ne pas avoir accès à, comme le cas de George Shachacron, quand on parle d'institutions, de George Shachacron qui était. Ça, c'est quand on parle de defund the police, abolition, c'est vraiment de revoir nos institutions où on vit dans un pays qui est très comme apartheid, où si tu es autochtone ou non autochtone, et les services que tu vas avoir, comment tu es traité par la police, par des prisons, par des institutions, est très différent. Et avant qu'on n'ait pas une réalité comme on n'avoue pas l'histoire et on arrête de pas raconter dans les écoles des mensonges, clairement, que ça fait, des choses ne vont pas changer. Et il faut vraiment se poser des questions. Combien de personnes autochtones sont ici ce soir? Et c'est une question très importante. Quand on ne voit pas de personnes autochtones dans une salle où ils sont surreprésentés dans des prisons, dans la criminalisation, et on parle d'abolition, on a un problème.
Je voulais vous lire la toute fin du livre, puisque je fais une proposition sur la difficile question de la stratégie. Donc, pour dire les choses rapidement, tout à l'heure je vous ai dit, il y a toute la section numéro 2 autour des questions stratégiques et des différentes possibilités stratégiques. Pour les résumer très rapidement, et s'il fallait avoir trois mots-clés, je dirais qu'il y a la destruction, donc s'attaquer directement à l'institution policière, la voie insurrectionnaliste. Bon. Deuxième possibilité stratégique, le démontage, c'est-à-dire construire des espaces sans police, des espaces sans système pénal, se libérer en espérant rendre ainsi la police ou la prison obsolète. Vous voyez, je fais référence ici à un titre du livre d'Angela Davis. Bref, la stratégie de l'obsolescence par la désertion. Voilà, ces différentes images, hein, je vais un petit peu rapidement. J'ai dit abandon, ou je me suis trompée? J'ai bien dit abandon pour le deuxième mot-clé?
Démontage.
Pardon, en fait, il fallait que je dise l'abandon. Donc le troisième mot-clé, c'est le démontage. Et donc, c'est l'idée de retirer
des choses à la police jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et donc là, ça renvoie aussi à toute la discussion qu'on a pu déjà avoir sur la question du travail social. Hein, est-ce que c'est une bonne idée de retirer des choses à la police pour, en gros, donner de nouvelles attributions au travail social, aux travailleurs sociaux, aux enseignants? Et je le dis de façon d'autant plus détendue que je suis moi-même prof et donc bien placée pour savoir le rôle de policing qu'on peut avoir dans les institutions d'éducation. Bref, destruction, abandon, démontage, c'est les trois mots-clés. Alors évidemment, comme toute typologie, ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Hein, vous pouvez manier plusieurs stratégies. Et c'est ce que j'évoque à la toute fin, en disant que chacune me semble nécessaire, mais non suffisante, pour réaliser l'abolition. Et je propose également cinq ingrédients, et je vais vous les livrer. D'abord, la solidarité, qui est due à toutes les victimes de la police, quel que soit le type de victimation subie, qu'elle puisse ou non prouver cette victimation selon les standards de la justice pénale, et là c'est le retour à la question de l'image, selon les standards de la, enfin, sans tenir compte des standards de la justice pénale et sans considération portant sur leur personne ou sur les faits qui leur sont reprochés. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise victime de la police. Deuxième ingrédient, la réparation, qui doit participer de nos pratiques politiques en permettant de penser collectivement la guérison et le deuil, et plus généralement les réparations dues aux personnes et aux communautés les plus touchées par l'existence de la police. Troisièmement, l'autodéfense collective, qui est nécessaire à des fins de protection et de survie, et qui peut s'exercer diversement depuis le cop-watching, donc les pratiques de surveillance ou de sous-veillance de la police, hein, de renseigner ce que fait la police. Donc depuis le cop-watching, l'autodéfense juridique et le développement de culture de la sécurité, jusqu'à ce que Scott Crow désigne par l'expression « autodéfense armée, communautaire et émancipatrice ». Les trois adjectifs sont importants, il ne s'agit pas de faire des appels à des milices, hein. On parle bien de « autodéfense armée, communautaire et émancipatrice ». Quatrièmement, l'imagination, dont on a besoin pour concevoir des manières de faire et de vivre sans police, et pour expérimenter et tenter de préfigurer le monde auquel on aspire. Cinquièmement, l'offensivité, parce qu'on ne vainc pas un ennemi sans le combattre, et que si on ne le combat pas, on est déjà vaincu. En août 2021, un an après avoir été grièvement blessé par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, Jacob Blake déclarait « Je n'aurais pas survécu tant que quelque chose n'aura changé. » Puissent ces mots hanter chacun de nous, nous qui ne sommes forts que de nos aspirations, nous qui résistons à ce que la police fait de nos existences, nous qui avons le cœur lourd de tous ces destins brisés et de ces vies perdues, mais qui ne voulons laisser nos cœurs ni s'endurcir, ni se dessécher, nous qui devons rêver fort et rêver ensemble, pour que dans nos rêves puissent se forger les plus féroces combats pour la liberté, parce que personne n'est mort pour rien et que chaque mort nous oblige. Parce que nous ne voulons pas d'une vie à l'ombre de la police, parce que vivre libre, c'est vivre sans police. Nous avons 1312 raisons d'abolir la police.
Merci.
You've been listening to The Prison Radio Show on CKUT 90.3. That was all audio from a book launch that happened in Montreal on March 14th. You can buy a copy of 1312 Raisons d'abolir la police at the Le Galion bookstore near Beaudry Metro or online at luxeditor.com. It's also funding drive season here at CKUT, so if you're feeling generous and want to support radio related to prison abolition, fund us! Visit cKUT.ca/donate to send us some funds. Say it's for the prison radio show and we will feel extra special.
We don't be getting mad, we too busy getting even. We too busy getting even.
We the ones that know how to do without, the ones who will survive this drought. Count to the mess that they got us in. Expand in your heart like adrenaline. Sacred subversive, this the liberated feminine. Walking with the respecting those who taught us what we learned. Lessons handed down to us, the stories. We've all heard that shit enough to know. Don't brush it off, cause silence has too high a cost. My words might be too raw for you, but I can't apologize, it's just how I do. Cause we wild like the jungle and they tame like the zoo. Yeah, we wild like the jungle and they tame like the zoo. If you always talking, well now it's your time to listen. Whatever you thought this city was called, on occupied land we're living. Just cause you was born here, don't make you a native. The indigenous of this land, we're purposely created to protect the earth. The one to work here first, get the last word, farmers I'm concerned. Watch what they saying, claiming what they claiming. Respect ancestral land ties now, property owners hating. Believe I explained this way of life is violating. The land we depend on, worth infinitely more than some Dawson pipeline soft bonds. Now come on. Get the hell out, but stick around if it's trouble that you want. If y'all don't get on, we gon' get you gone. If y'all don't get on, we gon' get you gone. Harsher than the cold, mind the black lung cough. Colder than the force of a Sonoran desert frost. In the dead of December wind, when my familia trying to cross the, when my familia trying to cross. Hey, my little primo just got his DACA, DACA, but he's still getting puffed up by the placas, placas. My fingers start to itch, thinking I should stick a pick with my navaja.
Damn.
My words might be too wrong for you, but I can't apologize, it's just how I do. Cause we fall like the jungle and they tame like the zoo. Yeah, we fall like the jungle and they tame like the zoo. Yeah, we fall like the jungle and they tame like the zoo.
Fucking federal is always trying to us weaker, conservative laws criminalizing all our people, poisoning our water, might as well be drinking diesel. They may never know what it means to be decent. The rich got no heart and even less reason, but we won't be getting mad, be too busy getting even. Rhythmic like the seasons, unexpected wild danger, learned it from mother nature, divine fire sequence, beaming in the dark, infinite in the light, the underestimated spark. Scheming with the winds of change to ignite. My words might be too raw for you, but I can't apologize, it's just how I do. Cause we wild like the jungle and they tame like the zoo. How they say this life is just a ride, can't waste all of your time abiding by the rules, cause too much submission gets you so confused. Gotta stay true to the rebel youth, loving the city at night, 40 ounces out of sight, tucked in my pocket, stumbled across my local party, hijacked the mic and I rocked it. Yeah, I rocked it.
That was the song Safety Off by Alas. You can check out past episodes of the Prison Radio Show online at prisonradioshow.wordpress.com and prisonradioshow.libsyn.com. You can also follow us on Twitter. We don't tweet all that much anymore, but our handle is Prison Radio Show. Parts of our show are also available through podcasting apps. The Prison Radio Show airs twice a month on CKUT. We are on the air on the second Thursday of the month at 5 p.m. and the fourth Friday of the month at 11 a.m. Our next show will air on Thursday, April 13th at 5 p.m. If you have any questions about anything that you've heard on today's show, or if you wish to be involved in the show, feel free to contact us. We're by email at prison@ckut.ca. Formerly incarcerated people are encouraged to participate. You can also call us. We have a phone number. It's new. It is 438-858-6116. You can call that number collect if you are calling from within the 438 or 514 area code. Thank you to the folks at Fed Phone Line for gifting us the new number. People in prison can also write to us, or anyone on the outside can write to us too. We are at The Prison Radio Show, or simply write PRS, care of CKUT, 3647 University Street, Montreal, Quebec, H3A2B3. Thank you for tuning in to The Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM. My name is Virginia, and I've been your host for today. Please stay tuned.
Butcher T's Noontime Cuts, hitting every Friday from noon to 2, playing your wide variety of music just to make your afternoon delight just right. So stay locked into CKT 90.3 FM. Oh, yes. In addition to that, this is our funding drive time. Yes, so welcome to CKT 90.3 FM. And yes, funding is back. Started last